Alors, je vais vous parler de biodiversité liée aux peuplurées. Désolé, mes transparents seront plutôt en anglais, mais c'était parce que je croyais que c'était nécessaire. Et donc, oui, voilà, ce sera une vision un peu théorique de l'aspect de plantation par rapport à la biodiversité, avec une vision peuplurée, puisque c'est le sujet du jour. Déjà, quand on s'intéresse à l'effet d'une plantation sur la biodiversité, eh bien, bien sûr, une plantation forestière classique va avoir un effet sur la biodiversité forestière, le grand cercle représentant quelque chose comme une petite région, par exemple, mais aussi sur la biodiversité globale, puisque si on a davantage de forêts, on a moins d'autres choses. Il faut imaginer dans ce grand cercle un certain nombre d'autres cercles comme des ruisseaux, des prairies, etc. Et donc, si on grossit énormément la part biodiversité forestière, eh bien, c'est aux dépens d'une autre biodiversité. Le cas particulier, par contre, du peuplier dans ce contexte-là, c'est que, en fait, ça a été étudié par mes collègues en Champagne, on se situe un petit peu à cheval entre de la forêt et autre chose, qui est un milieu plus ouvert, parce que le peuplier a un houppier assez clair, les arbres sont assez espacés les uns des autres, ce qui fait que des espèces de milieux ouverts peuvent facilement vivre dans ce contexte. Alors, pour schématiser, si on plante une nouvelle parcelle forestière aux dépens de milieux particulièrement valorisables sur le plan, enfin, particulièrement riche en espèces d'autres valeurs patrimoniales telles que des landes, des prairies naturelles ou des tourbières, eh bien, on va certes avoir des espèces forestières qui ont une certaine valeur patrimoniale parce qu'elles ne sont pas forcément hyper courantes dans le paysage dans lequel on réalise cette plantation, mais étant donné qu'on va peut-être nuire à des espèces hautement patrimoniales, eh bien, on aura peut-être, selon le cas, un aspect négatif sur notre biodiversité globale. Si à l'inverse, on introduit nos arbres dans un contexte bon, urbanisé, on peut imaginer une friche industrielle ou un paysage fortement agricole, d'agriculture intensive, eh bien, la moindre parcelle forestière dans ce paysage va être comme un îlot au milieu d'une zone un petit peu désertique pour les espèces forestières et on aura un effet à l'inverse beaucoup plus positif. Un autre effet que je ne schématise pas sous forme d'une diapositive, mais que mes collègues avaient mentionné dans leur rapport final, c'est un effet à l'échelle paysager en termes de trame verte, c'est-à-dire que au-delà du nombre d'espèces dans notre grand cercle qui représente notre paysage, on va aussi avoir un intérêt d'une plantation qui serait faite dans une zone fortement ruralisée. C'est le fait que pour certaines espèces, ça va constituer un refuge. Et donc on a comme ça dans la littérature scientifique des exemples comme des plantations d'épicéa en Écosse. Qui peuvent permettre la sauvegarde d'espèces de champignons rares qui proviennent d'une centaine de kilomètres de parcelles de pins sylvestres naturels, autochtones dans cette région, ou alors de plantations d'eucalyptus en Espagne, où vraiment le territoire n'est absolument plus boisé, et où on peut avoir un refuge pour des lynx, par exemple, qui trouvent dans les peuplements d'eucalyptus, qui sont pourtant absolument pas naturels, un refuge, un habitat qui leur est favorable. Pour avoir bien en tête comment se matérialise l'effet dans le paysage, on peut donc utiliser cette courbe théorique d'augmentation de la richesse en espèces en fonction de la surface de notre écosystème étudié. Donc, par exemple, on va bien sûr prendre l'exemple du peuplier dans notre cas, et puis on va comparer deux cas très opposés. Ici, donc, une région où on n'aurait absolument pas de peuplier, on en introduit une valeur de 10, on va dire ça correspond à 100 hectares par exemple, eh bien on va avoir un effet fort sur les espèces liées à cet écosystème, puisqu'il n'existait pas jusque-là, et donc on va grandement influencer le nombre d'espèces liées aux peupliers dans cette micro-région. À l'inverse, si on se trouve dans une région déjà très populicole, eh bien, certes, l'effet va être positif, on va peut-être gagner une ou deux espèces à l'échelle de notre micro-région, mais l'effet sera faible puisqu'on aura déjà accumulé, avec nos centaines ou milliers d'hectares de peupliers, beaucoup d'espèces liées à ce milieu-là. Donc ça marche comme ça à l'échelle du paysage, c'est une loi assez générale pour la biodiversité. L'arbre en tant que tel va avoir des particularités propres qui seront à la fois chimiques ou mécaniques. Ça va jouer aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, sur le niveau de lumière en sous-bois. Donc le peuplier, lui, aura sa particularité avec un éclairement assez fort en sous-bois qui va permettre une dynamique de la végétation par rapport à d'autres espèces, peut-être plus typiquement forestières comme le chêne ou le hêtre. Et au niveau chimique, par exemple pour les espèces épiphytes qui m'intéressent particulièrement parce que je suis un peu spécialisé sur les mousses, eh bien on aura des espèces telles que les pins ou les platanes qui vont s'exfolier, c'est-à-dire perdre des plaques d'écorce régulièrement. Donc ces essences-là sont très défavorables, alors que le peuplier va plutôt faire partie de cette catégorie-là avec une écorce qui sera capable déjà chimiquement d'un pH assez neutre par rapport à d'autres, et qui ne s'exfoliera pas facilement avant un grand âge, et donc va permettre l'accueil d'espèces sur son tronc. Ensuite, il faut, comme l'avait dit Richard tout à l'heure, ou même Aurélien, ils ont abordé ce sujet, il faut bien avoir en tête que on n'a pas une peupleurée dans le paysage, mais des. Donc une peupleurée qu'on peut dire alluviale sauvage, qui correspond à ce grand cercle, des peupliers de forêt typiquement, qui pourraient être celui-là. Et là, on va plutôt s'intéresser donc à ce contexte aujourd'hui de peupleurée cultivée, qui elle-même est constituée d'hybrides différents, avec donc des écorces plus ou moins lisses, des pH sûrement plus ou moins forts. Donc par nature, l'écosystème dans lequel on va se placer. Si on est en forêt alluviale, eh bien certaines espèces très rares, telles que celle-ci qu'on a découvert dans le projet Biomaro sur les îles de Loire, elle va très certainement pas pouvoir coloniser facilement les autres contextes, puisque elle est vraiment typiquement liée à ce milieu alluvial, avec une submersion une partie de l'année et un assèchement l'été en période d'étiage. D'autres espèces, par contre, sont typiquement capables de survivre en contexte alluvial également, elles vont potentiellement pouvoir coloniser des forêts cultivées puisqu'elles sont capables de vivre à une centaine, enfin à plusieurs centaines de mètres du fleuve à proprement parler. Et donc au sein même de ces peupliers cultivés, on peut même s'attendre à avoir un effet de variation de la population des espèces qui leur sont liées. Ça peut paraître surprenant puisqu'on parle de clones très proches avec des origines génétiques certes variées mais d'apparence quand même assez semblables. Mais on a des scientifiques qui sont intéressés à des vergers de pommiers ces dernières années et ils ont démontré des différences d'espèces associées aux différentes variétés de pommiers. Donc, ça doit être possible, même si je n'ai pas de référence en tête, également chez les peupliers. Alors, ce qui va jouer, ça a été abordé par Aurélien Salé, mais je reviens dessus. Ce qui va jouer aussi sur la capacité des espèces à s'associer à une essence d'arbre, ça va être les surfaces colonisées dans leur aire de répartition. Le chêne, qui est un peu un champion en la matière, il a colonisé l'Europe à la fois sur d'immenses territoires et à la fois sur une variété de sols, de contextes écologiques assez variés. Donc, par là même, il va être capable de s'associer à un grand nombre d'espèces. Le peuplier noir, a priori, il est aussi sur une aire de répartition géographique très vaste. Donc là aussi, il a des chances d'être associé à un grand nombre d'espèces sur cette aire de répartition. Mais il est limité à un contexte écologique extrêmement plus réduit, ce qui fait que, de par là même, ça va sélectionner des espèces capables de survivre dans ces milieux-là. Et donc, la diversité va être quand même moins élevée que dans le cas du chêne. Enfin, des espèces qui seront limitées à des aires de répartition naturelle extrêmement limitées au départ, comme le pin noir, mais il y a pire, le sapin d'Espagne est dans une toute petite zone au départ, et eh bien, a priori, on s'attend à ce qu'il soit associé à une diversité d'espèces plutôt plus faible. Alors, sur cette échelle-là, donc, c'est une échelle mathématique, mais ça reproduit la répartition spatiale de l'espèce en Grande-Bretagne, eh bien notre peuplier est pas mal placé par rapport au chêne qui est un peu un champion. Le peuplier, malgré tout, est assez riche en espèces d'insectes dans cette aire géographique. En France, je n'ai pas de résultats comparables bien fiables, mais on peut s'attendre à des résultats très comparables. Ensuite, le nombre d'espèces associées à une essence va être lié à l'ancienneté de l'essence sur le territoire. Dans le cas des peupliers, on peut s'attendre à quelque chose de supérieur à 10 000 ans pour pour les peupliers sauvages, bien sûr, pas pour les hybrides. Et donc, ça laisse un contexte, une durée très, très étendue pour un grand nombre d'espèces pour s'associer à cette essence. En gros, on peut considérer que dès la fin de l'ère glaciaire, ces espèces ont colonisé l'Europe. Et même avant cette glaciation, on peut imaginer qu'un certain nombre d'espèces déjà associées avant aux peupliers autochtones se soient réfugiées en Espagne et en Italie avec eux pour au moins un certain nombre d'entre elles. Donc si on veut comparer par rapport à des espèces exotiques introduites récemment, le robinier il y a déjà 400 ans, mais à l'échelle du peuplier, et sachant que les 10 000 ans, enfin 13 000 ans dans le cas... dans ce cas-là, je crois que j'ai pris l'exemple du peuplier noir, mais je suis... Oui, le peuplier noir en Grande-Bretagne. On a donc une étendue extrêmement vaste, sachant qu'en plus, comme on l'a vu, c'est un minimum. Avant glaciation, il pouvait y avoir une association. Dans le cas des peupliers hybrides qui nous intéressent, qui sont donc par nature... au moins un minimum exotique, eh bien, on peut s'attendre à avoir quelque chose intermédiaire entre donc cette durée très vaste et des introductions assez récentes. Mais comme ça a été déjà évoqué par Aurélien, on a tout de même une proximité génétique qui fait qu'on doit se balader quelque chose quelque part au milieu de cette période. Parce qu'il y a une forme de compensation du fait de la proximité génétique et du fait qu'elle soit introduite récemment. Malgré tout, donc sur ce plan-là, le peuplier, on peut dire qu'il est battu par le chêne, c'est-à-dire que par rapport à sa durée d'introduction, la diversité d'espèces est tout de même beaucoup plus faible que le chêne, alors que des espèces introduites récemment, en tout cas en Angleterre, et basé sur les données naturalistes dont on dispose, c'est-à-dire sans études spécifiques sur le sujet, sont a priori assez pauvres. Alors justement, par rapport à ces données de la littérature et naturaliste, le mieux pour étudier ces choses-là, c'est de le faire proprement sur des zones exactement comparables et dans un contexte écologique comparable. Donc. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'étude Biomaro, puisque c'était ce qu'on voulait savoir. Est-ce que l'arrivée d'une espèce exotique récemment sur le territoire des îles de Loire allait provoquer potentiellement une chute de la diversité si cette espèce exotique remplaçait notre peuplier sauvage? Et donc, c'est effectivement le cas. Apparemment, les ramenées Gundo est moins riche que le peuplier noir dans notre zone étudiée. Que ce soit à l'échelle de l'arbre moyen, c'est-à-dire si on compare la moyenne de chaque arbre, ou à l'échelle du paysage, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'étude de la zone étudiée, donc Loire moyenne, et donc où on retrouve une accumulation d'espèces, en cumulant toutes celles qu'on a trouvées dans l'étude, inférieure pour l'Era Negundo, qui est donc introduit depuis beaucoup moins longtemps, et que sont nos peupliers sauvages qui sont là depuis des milliers d'années. L'autre donc solution, qui est beaucoup moins fiable, mais qu'on peut tenter à défaut d'études spécifiques, eh bien, c'est de se servir de la littérature scientifique ou des bases de données. On filtre à travers les données de l'inventaire national ou d'autres bases de données régionales qui sont encore plus mises à jour plus régulièrement, enfin en direct, et donc on peut juger de la présence, de la potentielle présence d'une espèce associée à nos peupliers dans la région considérée. Donc là, on va s'intéresser bien sûr à la région centre. Donc si on prend l'exemple d'une bryophyte qui a été trouvée sur bois mort au Canada ou sur un tronc en Finlande, on filtre par la région, elle est bien ici, et donc on peut estimer qu'elle est potentiellement associée aux peupliers dans notre région. C'est forcément bien moins fiable, parce que l'idéal, c'est quand même de vérifier, mais globalement, on retrouve une certaine fiabilité dans cette estimation. Donc pour la Serre Negundo, on a fait ce travail, on a synthétisé l'information, on a observé donc que on avait 160 espèces en France qui pouvaient être associées à cette espèce, et en région Centre-Val de Loire, donc 120. Vous voyez que si on compare cette richesse au peuplier, le peuplier ressort comme champion, puisque on est à plus d'un millier d'espèces pour la France et 751 pour la région Centre-Val de Loire. Si maintenant on distribue cette liste de chiffres régionaux et qu'on le ventile par espèce ou clone, là, bon, on s'aperçoit que nos peupliers cultivés ont des scores très honorables avec environ 500 espèces attendues, tout groupe confondu, pour la région centre. Sachant que, bien sûr, ces données-là, c'est très provisoire, c'est juste ce qu'on a dans la base de données actuellement, avec 4000 mentions qui proviennent du monde entier. Et donc, bien sûr, il est nécessaire de récupérer davantage d'informations, et ces chiffres seront sûrement supérieurs au final, bien sûr. Ça n'empêche pas que donc dans un contexte fixé de peupleraies tel qu'on les connaît aujourd'hui, il y a des possibilités d'amélioration de la biodiversité présente dans les peupleraies. Mes collègues l'avaient étudié en Champagne, ça a même été chiffré pour d'un point de vue économique, c'est cher, c'est sûr, on perd des arbres ou de la surface, mais il faut savoir que donc de laisser du bois mort présent dans les peupleraies, des vieux arbres, c'est peut-être difficile, mais ce serait bien. Et donc de la végétation de sous-bois, ça a été évoqué ce matin par notre collègue de l'IDF. Dans certaines stations, on a vu que c'était possible. Ce serait très favorable à la biodiversité, notamment des oiseaux. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci.